en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Bonjour Nagui.
Bonjour Ali, aujourd'hui dans la bande originale, une autre vie, celle de Raphaël qui est notre invité, une autre vie, c'est son album.
Bonne émission, il est 11h10 à l'écoute de France Inter. Le flash, Timur Özturk.
La tension monte d'un cran sur les campus américains. Des affrontements ont éclaté sur celui de l'université UCLA à Los Angeles entre pro-palestiniens et pro-israéliens à coups de bâtons, de feux d'artifice. À New York, la police anti-émeute a délogé les étudiants de Columbia qui occupaient l'un des bâtiments de l'université en solidarité avec Gaza. La présidente de Columbia demande un déploiement policier dans son université jusqu'au 17 mai. Donald Trump, à 6 mois de l'élection présidentielle américaine, parle d'agitateurs payés contre lesquels Joe Biden a peur d'agir. Il nous faut mettre fin à l'antisémitisme qui gangrène notre pays aujourd'hui, affirme l'ex-président républicain. En visite à Tel Aviv, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, dit les États-Unis déterminés à ce qu'Israël et le Hamas concluent dès maintenant un accord de trêve avec libération d'otages lors d'une rencontre avec le président israélien Isaac Herzog. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, lui aussi en visite au Proche-Orient, tournée prolongée aujourd'hui après le Liban, l'Arabie Saoudite et Israël, dans la capitale égyptienne, le Caire aujourd'hui, dans le cadre des efforts de l'Égypte pour obtenir la libération des otages et une trêve. 60 protestataires arrêtés après une nuit de manifestation nocturne à Tbilissi en Géorgie, dans le Caucase. Barricades contre gaz lacrymogène et tirs de flashball, mobilisation massive anti-gouvernementale contre un projet de loi sur l'influence étrangère que ses détracteurs jugent similaire à une législation russe utilisée contre l'opposition. Plusieurs journalistes et députés matraqués, l'Union européenne condamne fermement le recours à la force. Déterminer le bon usage des écrans pour nos enfants à la maison comme en classe, voilà la mission confiée par Emmanuel Macron au gouvernement. Sur la base d'un rapport d'une commission sur le sujet, des mesures doivent être dégagées dans un mois. La commission préconise d'interdire l'usage des écrans et des téléphones portables aux plus jeunes et d'en limiter drastiquement l'accès pour les adolescents. Elle pointe notamment les réseaux sociaux comme facteur de risque de dépression et d'anxiété. Il avait menacé de mort Emmanuel Macron et insulté Brigitte Macron dans une lettre adressée à son assistante sociale. Un homme de 76 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel du Mans. Il va faire appel. Le pouvoir d'achat reste le sujet prioritaire pour les travailleurs, constate Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, ce matin sur France Inter. En ce 1er mai, journée internationale des travailleurs, Marie-Lise Léon manifeste aujourd'hui à Nancy. Le cortège parisien partira, lui, de la place de la République à 14h. Des cortèges sûrement moins fournis que l'année dernière en pleine réforme des retraites. À Nice, ce matin, par exemple, ils étaient quelques centaines contre 20 000 l'an dernier. La culture française perd un grand passeur, un amoureux de la culture française, écrit ce matin la ministre de la Culture Rachida Dati. Après la mort de l'écrivain américain Paul Auster à 77 ans d'un cancer du poumon, auteur d'une trentaine de livres traduits dans une quarantaine de langues, il parlait français, avait vécu à Paris, mais c'est sa ville de New York qu'il a raconté tout au long de sa vie et de ses romans.
France Inter, Nicolas Stoufflet.
Nous enregistrons le jeu des 1000 euros demain à Faire en Tardenois dans l'Aisne à 17h puis à 18h30. Vendredi à Auville dans l'Eure et samedi à Bernières-sur-Mer dans le Calvados.
Le jeu des 1000 euros, tous les jours à 12h45 sur Inter.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, arrivent à faire rimer ces nouveaux avec comment ? C'est déjà en promo ? Jusqu'au 27 mai, profitez de jusqu'à 15% de réduction sur la nouvelle gamme de fenêtres PVC et d'un financement 20 fois sans frais. Une offre comme ça, même chez la paire, il n'y en a pas deux. Offre de crédit affectée 20 fois sans frais, valable du 2 au 27 mai pour tout achat de 1500 à 15 000 euros. Après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Conditions sur lapaire.fr.
Vous êtes bien à l'écoute de France Inter, il est 11h passé de 4 minutes, l'heure de retrouver la bande originale avec vous, Nagui.
Merci Timur Özturk, on vous retrouve tout à l'heure à midi. Merci Timur Özturk, on vous retrouve tout à l'heure à midi pour toutes vos infos. Et c'est la bande originale, soyez les bienvenus, on passe la matinée en votre compagnie, même le premier.
Et oui, et ce matin, de la poésie, du charme, de l'intime, ce n'est pas Daniel Morin, c'est Raphaël avec son nouvel album Autre Vie.
J'aime bien Raphaël, moi, il est reposant, il parle et chante tout doucement.
C'est tout. Voilà. C'est pas le blind test qui a commencé. Parce que comme il le dit lui-même, sur son album, d'abord bonjour Raphaël.
Bonjour, comment ça va? Quelle joie d'être avec vous.
Il paraît que vous avez été chanteur avant.
Et j'ai été chanteur.
Ouais. Wow. Un titre, oui.
Très bonne
On évoque un passé.
Babysitter. Dans Babysitter, il raccompagne une babysitter qui lui dit « Il paraît que vous avez été chanteur. »
C'est drôle ça.
Elle fait référence à Caravane qui fête ses 20 ans.
Bientôt, ouais, l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine.
Ouais, 20 ans.
Ouais, 20 ans dans un an, effectivement. Oh, 19 ans.
Vous n'avez pas pris une ride, c'est
Merci.
Ça qui est fort.
C'est vrai, factuellement, c'est vrai.
On va évoquer.
Non, pas une.
On va évoquer ce nouvel album, mais d'abord, essayer de reconnaître ce titre.
Daniel ?
Ouais.
Caravane ?
Non. Ah ouais. Ouais, évidemment.
Wow. C'est-à-dire que tu deviens fou.
Mais ça, c'est le blind test, vraiment ?
Ouais, c'est le blind test.
Okay. Je crois que tout à l'heure, c'était pas le blind test.
Non, je donne la réponse d'abord maintenant, parce que c'est tellement...
Mauvais ?
Non,
c'est
pas
non, c'est, je cherchais un autre mot, mais tu as raison, c'est celui-là.
Ouais, okay.
Oh, tu sais, je suis habitué.
Qui chante ça ?
Alexandre.
Alexandre. Abba. Oui, Abba.
Abba. Ah, attends, pardon. Dancing Queen. Caravane.
Les gitans.
Les gens du voyage.
Les gens du voyage.
Qui chante ça?
Oh,
Camille. Camille.
Leïla.
Non, c'est Camille.
Ouais. Portichette.
Portichette.
Ah oui. C'est Glory Box. Glory Box.
Glory Box.
Qu'est-ce que c'est bien.
Ça, c'est la musique quand Daniel Morin arrive dans les couloirs.
Que les enfants pleurent.
J'aimerais bien, oui. Qui chante ça?
Daniel,
oui.
Johnny.
Joli.
Oh bien.
Ah.
Oh
Laura,
oh Laura. C'est quoi le thème?
Le temps passé.
C'est
pas
les blondes.
Je n'avais besoin de personne.
Je vous donne pas tout de suite le thème. Il y a un fil rouge qui est. Dont je ne suis pas peu fier, on va dire.
Mais pas trop quand même.
Qui chante ça?
Les Stones?
Non.
Ah on dirait.
T'as pas?
On dirait téléphone un peu, genre.
Ah, oui, c'est vrai.
On dirait la guitare de Bertinac.
Aerosmith.
Pas loin.
Aerosmith.
AC/DC.
Oui, très bien. AC/DC.
Ah bah là, oui.
You shook me all night long. Deux points pour Alexandre Cominec, deux points pour Daniel Morin, un point pour Camille. Hmm. Bon, je vous le donne, le thème.
Ouais.
Premier artiste, Raphaël. Deuxième, Abba. Troisième, Portichette. Quatrième, Hallyday. Cinquième, ACDC. Donc, dans l'ordre des initiales, R-A-P-H-A.
Oh là là, ça sent la déclaration d'amour.
Magnifique.
Accrochiche.
Ouais, alors attends, il manque, il reste quoi là?
Donc, on est au E là.
Il reste exactement.
Ok.
Daniel.
Alexandre.
Ah oui,
Daniel.
Let's up.
Non.
Bah, non, c'est pas la.
Ah, je crois que c'est ça. Non, c'est ah merde, je crois que c'est la dernière.
Ah, c'est pas elle.
Eagle, non.
C'est le groupe de Jeff Lynne.
C'est qui?
Jeff.
Par eux.
ILO, Electric Light Orchestra. C'est pas grave. Je vais faire un peu plus difficile. Jeff Lynne, c'est le monsieur qui avait tout simplement produit George Harrison, I Got My Mind Set on You, qui avait aussi
Tom
produit
Petty aussi.
Tom Petty, Roy Orbison, Pretty Woman, c'est lui qui avait produit. Ok, tout se joue
Petty
maintenant
Woman.
Sur le L qui rapporte 5 points à la victoire.
Leïla, Led Zeppelin.
Non. Évidemment. Évidemment.
On peut pas mettre Lara Fabian.
J'aime bien gagner pour commencer la journée.
Oh, Dire Maker, qui est pas le plus connu, mais qui est le plus surprenant de Led Zepp.
Magnifique son de guitare, directement branché dans la console.
Ça a été repris par qui, ça, d'ailleurs?
C'est vrai?
Carla Bruni.
Non.
Bon,
non.
Non, non, moi, je connais pas de reprise.
Jamais.
Non, moi, non plus.
Bisous.
Qu'est-ce que c'est là? Victoire de Leïla, comme vous l'avez dit, évidemment. Yeah. Non, mais alors.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui et Leïla Kaddour. Ouais.
Raphaël, dixième album,
ah oui.
S'est baptisé Une autre vie. Un album qui est sorti le jour des droits des femmes.
Oui.
Est-ce que c'est un signal? Parce qu'en plus, Une autre vie...
De la journée.
La journée des droits des femmes.
Oui, j'ai dit le jour des droits des femmes.
D'accord, la journée consacrée aux droits des femmes.
Compliqué.
J'avais fait attention à ne pas dire la journée de la femme. Donc j'ai dit les droits et des femmes, pas de la femme.
Ouais, bravo.
Vous me fatiguez.
C'est vous qui nous fatiguez en réalité. La vraie, la réalité, c'est ça. C'est
faudra qu'on la supprime quand même.
Il n'y en a qu'une seule et ils n'y arrivent pas. C'est ça qui est fou.
J'imagine, c'est la même tous les jours.
Franchement,
faut la rendre bisextile.
Est-ce que c'est un clin d'œil, une autre vie, chanson consacrée à votre épouse?
Oui. Je ne savais pas du tout que c'était
on a
choisi la date six mois avant. Je savais que c'était mon épouse depuis pas si longtemps. Et ensuite, je ne savais pas que c'était la journée des droits de la femme, mais c'est pas moi qui ai décidé de la date. Mais par contre, ça tombait bien. Ouais,
c'est un joli clin d'œil. Chanson, notamment cette autre vie que vous lui consacrez, que voici.
Une autre vie. Se déshabille souvent.
Alors on peut dire qu'il y a beaucoup de poésie évidemment dans vos textes, dans les mélodies, il y a beaucoup de pop, beaucoup d'envolées, de la nostalgie aussi présente, on va en parler. Mais là, la poésie, même si elle est présente, c'est extrêmement clair, c'est peut-être le texte le plus translucide possible, imaginable.
Ouais, c'est très premier degré, c'est vrai que elle joue dans des films depuis très longtemps, et à chaque fois je lis un peu les scénarios parfois, je la vois travailler, préparer, et puis à un moment donné, des mois ou des années après, je vais sur le tournage une fois ou deux, parfois ça se passe au bout du monde, je sais pas où, en Thaïlande ou...
Ça c'était pour le film avec Gilles Lelouch ?
Non, ça c'était en Islande. Mais bon, en tout cas, à chaque fois je me fais un ou deux voyages comme ça, je suis projeté sur un tournage où on marche sur la pointe des pieds, et puis vient le fameux moment où je rentre dans la salle, quoi, où je vais voir le cœur battant, qu'est-ce que ça donne toute cette affaire, quoi, et avec l'espoir que ça va être magnifique, ça l'est la plupart du temps, et en même temps c'est très étonnant parce que c'est vrai que c'est une autre vie, elle a un autre mari, des enfants, elle peut mourir dans le film.
Enfin, voilà, c'est pas vrai, c'est du cinéma.
Oui, bien sûr, mais oui, je suis inquiet parce que le cinéma, s'il y a quelque chose de très puissant déjà dans le cinéma, et en plus, le cinéma c'est pas comme la littérature, ou c'est pas comme d'autres formes d'art, où c'est de la pure fiction. Les acteurs, ils vivent vraiment ce que... C'est pour ça que tout le problème de
et
la...
Et ils ressentent les émotions réellement pour les jouer.
Et puis c'est vraiment joué, c'est un événement c'est historique, ça. Le film. C'est pour ça que le problème de la pornographie se pose vraiment au cinéma, et qui se pose beaucoup moins dans la littérature. Enfin, il ne se pose pas. En tout cas, beaucoup moins. Parce que les acteurs ont vraiment vécu les choses.
Et c'est intéressant parce que dans la chanson, vous dites « Elle aime toujours des hommes différents ». D'autres enfants, on pose toujours la question aux conjoints des comédiennes, comment ils vivent les choses. Voilà. Mais les enfants, on ne demande jamais, les enfants, comment ils vivent ça, de voir d'autres enfants. Je pense au film de Fabien Gorgeard, par exemple, où elle était comme ça, tellement aimante, avec ce petit garçon qu'elle avait recueilli, quasiment adopté. Je me dis, et ça, les enfants, ils vivent ça comment ?
Ils acceptent la fiction, ils vivent ça très bien, ils sont bouleversés par l'histoire, en fait. Je sais pas, ils l'ont jamais formulé, ils ont toujours dit très cool, c'est super, c'est vachement bien. Tu vois, est-ce que ça va marcher, cette affaire ? C'est surtout ça, la question qu'ils posent.
Et puis, il y a cet espoir permanent. Qu'est-ce qui est génial, cette chanson ?
Aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi.
Ce que j'adore, c'est que vous jouez avec votre voix aussi, avec une voix plus haute au début, comme si vous cherchiez à être l'épouse, justement, à être la femme qui parle ou l'enfant qui parle. Parce que là, encore une fois, c'est l'espoir au sens large du terme. Et après, vous redescendez dans les graves pour répondre à la question.
Non, ouais, je l'ai pas formulé comme ça, mais bon, là, j'ai pas l'impression que j'ai une voix d'épouse. C'est ma voix normale, c'est ma voix du soir. Là, j'ai ma voix du matin, la voix du mari, si tu veux.
Dans cette chanson, il y a deux personnages, il y a la question et la réponse.
Je sais pas, peut-être. Elle est un peu. D'une certaine manière, si je me parle à moi-même en disant souviens-toi qu'au fond de toi, il y a encore un enfant, qu'il y a un endroit au bord de l'océan où le projet c'est l'espoir. Ça peut parler à un enfant, ça peut parler à la femme qu'on aime, ça peut parler à un ami aussi. Enfin, ça parle à quelqu'un qui a besoin de réconfort, je dirais.
Est-ce que c'est si rare que ça, les chansons qui sont porteuses d'espoir ? On a l'impression que par moments, les chansons, les plus belles chansons, sont les plus tristes, les plus déchirantes. Ne me quitte pas, l'aigle noir, on a la chair de poule, on a envie de pleurer. Un peu comme les mauvaises nouvelles. aux infos, on a ces mauvaises nouvelles qui tournent en boucle, c'est pas les bonnes.
Oui, c'est vrai. Alors après, moi, je trouve que souvent dans la chanson, c'est, déjà, il y a des gens qui ont des sensations différentes. Des gens aiment bien, quand ils sont, par exemple, dans un chagrin amoureux, écouter justement Ne me quitte pas ou L'aigle noir, ouais, ou des choses qui les mettent encore. Ils pensent qu'on peut aller encore plus bas grâce à Barbara, ce qui est tout à fait possible, et même si j'adore. Et moi, si je suis dans un moment de tourment, j'aurais plutôt envie d'écouter un truc de Iggy Pop en disant allez, fuck it, quoi, donnons-nous de la valeur et essayons de pas nous faire de l'auto-apitoiement. Voilà. Ensuite, je dirais que dans certaines chansons, je sais pas, les chansons des Beatles, vous écoutez Yesterday par exemple, c'est un chant d'espoir, quoi.
C'est vrai.
Donc,
écoutez ce que je voulais dire.
Oui.
Tu dis que les mots d'amour ne servent à rien, qu'on devrait vivre sans penser à demain, qu'on n'a pas le temps du malheur, qu'on n'a pas le temps pour le malheur.
Donc là, vous êtes dans l'autre qui pose la question.
Ouais.
Tu n'as pas de livre sur ton étagère, tu
plus haute que d'habitude, j'ai envie de dire.
Ni ton père.
Un peu.
Qu'on a le droit au bonheur. Ouais.
Quand j'ai.
Qu'on a le droit au bonheur.
Arrive la réponse,
le daron.
Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi.
Vous allez au fond de la mer, c'est d'un coup, elle devient plus deep.
Moi, il me semble qu'on parle, ça parle à la même personne. Ça dit, tu dis qu'au fond de toi, tu es encore un enfant. Mais c'est-à-dire quelqu'un qui est très vulnérable, très fragile. Et j'ai dit, mais moi, mon avis, c'est que j'ai marché au fond de la mer et dans le désert et j'ai jamais rien vu d'aussi beau que toi. Voilà, ça veut dire que, tu vois, donne-toi de la valeur, peut-être, c'est ça.
Et ça fait penser aussi à voyage en solitaire. Il y a un
peut-être
aussi qui est un peu dans votre ADN musical aussi.
Je sais pas, je vois pas trop, mais par contre juste pour l'histoire de la hauteur, quand j'ai écrit cette chanson, c'était vraiment un matin, je sais pas pourquoi, ça devait être pendant les vacances ou juste avant l'été, et mes gosses étaient là, ils regardaient un dessin animé dans la chambre. Et vraiment là, ça doit être en sol mineur, je l'ai écrit deux tons au-dessus, c'est-à-dire que c'était même pas haut, c'était... Là t'aurais dit, c'était pas... Quel rôle je suis de quelqu'un qui a pris du poppers, quoi. Chanteur sous poppers.
Ouais, voilà.
Pas mal comme titre.
Et mon fils m'a dit, mais tu peux pas chanter comme ça, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là?
Et lâche cette bouteille.
Et l'autre a dit, mais non, tu peux pas. Et alors j'ai dit, bon, bah, je vais essayer un peu plus bas. Et j'ai descendu d'un demi-ton. Il fait, non, tu peux toujours pas. Et donc on a descendu deux tons. Et deux tons, ça donne cette chose-là. Voilà.
D'accord.
Je sais pas pourquoi. C'était le jour où j'avais envie de chanter très aigu.
J'ai hâte d'écouter la maquette.
Bah, j'adore
l'idée. On va évoquer cet album avec ses chansons puissantes. 11 titres pour un 10e album déjà.
Il y a 10 titres.
Ah pardon.
Ouais.
Ok.
Mais dans l'argumentaire de la maison 10, ils ont dit qu'il y en avait 11. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour donner plus envie.
Je t'avoue que j'ai même pas cherché à compter. Il y avait marqué 11. J'aurais pas.
C'est juste un mensonge, quoi.
c'est pour vendre. Il y a même pas un titre caché.
Non, il y a pas de titre caché. Non.
C'est quoi?
C'est toujours.
Ouais, j'adore les titres cachés. Ça se fait plus parce que tout est numérisé, donc il y a plus aucune raison. Si ce n'est encore une fois de mettre un titre qui dure 8 minutes avec un silence d'une minute entre la fin d'un morceau et le début d'un autre et qui puisse pas être repéré, que tu puisses pas prendre en cours de route. C'est le genre de vanne que vous cherchiez sur les albums aussi des artistes, ces titres cachés.
Bah, il y a longtemps, on avait ce truc du titre caché et tout, mais vraiment le monde
titre à l'envers.
Le monde n'autorise plus ça, quoi. Ça n'intéresse plus personne. Aujourd'hui, c'est vraiment. On sort une chanson, on dit c'est la plus grande chanson de tous les temps, ça a fait 7 milliards de streams le jour où c'est sorti. Enfin, on est dans une réclame permanente, donc le titre caché, c'est vraiment. Vas-y, casse-toi avec ton titre caché. Rien à foutre. Non mais c'est vrai, à l'époque, moi quand j'ai commencé, un chanteur qui avait sa musique prise dans une publicité, il disait « Oh non, ça me fait chier, je fais pas ». Aujourd'hui, vraiment, les gens supplient pour avoir un truc qui illustre le déodorant, le papier toilette. Je vous en supplie, quoi. Mettez mon chanson, ça va changer ma vie.
Parce qu'il y a plus de CD qui se vendent, il y a très peu de CD qui se vendent aussi, en réalité.
Oui, et puis
de
même l'espèce de truc un peu hors sol ou hautain que pouvaient avoir les artistes a complètement changé. Ou maudit. Ouais. Beaucoup d'artistes faisaient semblant d'être maudits, je sais pas quoi. Aujourd'hui, ils peuvent plus, ils sont toute la journée à faire de la réclame sur Instagram, on ne peut plus croire qu'ils sont perdus. Quoi. On voit juste que c'est des boutiquiers comme beaucoup de gens.
Dans Heurtsup, justement, c'est sur la société de consommation, c'est encore aussi votre vision de l'amour.
Heurtsup, je dirais que c'est un peu la vision du monde. Quoi. C'est-à-dire que si on regarde un peu lucidement, justement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Quoi. Voilà, il y a la guerre qui frappe à nos portes, les démocraties vacillent, les gens sont sur leurs écrans toute la journée, ils ont des marques sur leurs t-shirts et des marques sur les visages parce qu'ils sont crevés et que le but but c'est s'acheter un, je sais pas, un sac Vuitton, enfin pour les très riches, ou un truc de marque ou une copie, j'en sais rien. Mais et que au milieu de toute cette climat anxiogène, j'ai l'impression que il faut se recentrer sur des choses intimes, des choses sur lesquelles on a de l'action, quoi, faire des heures sup d'amour. C'est, je trouve que le monde a beaucoup d'impact sur nous, qu'on a très peu d'impact sur lui, donc peut-être l'intime, le sentiment amoureux, et c'est ce dont parle ce disque, quoi, des souvenirs sur les épaules d'un père, se balader dans un jardin avec son fils, des trucs très simples. Mais...
Sur les épaules d'un père, ça c'est super cette chanson que voilà.
Sur les épaules de mon père.
Qui est à la fois dans la nostalgie et à la fois dans le concret. C'est-à-dire qu'on a tous ce réflexe. Ouais. On a les souvenirs d'avoir été plus haut que tout le monde lorsqu'on était sur les épaules de son propre père. Et on reproduit ce geste avec les nôtres.
Ouais, c'est très concret aussi. C'est vrai que c'est des souvenirs éblouissants, quoi. J'avais l'impression que j'étais à... mon père doit faire 1m82, mais j'avais l'impression que j'étais à 16 mètres de hauteur, quoi. Voilà, c'était en haut d'une montagne, quoi. Voilà, c'était vraiment magnifique, quoi. Et puis, c'est ce sentiment de protection merveilleux. Enfin, ça dit simplement que j'ai eu des très bons rapports avec lui, et voilà, et que c'est...
Et que vous reproduisez quand même ce schéma avec vos enfants.
J'espère être un aussi bon père avec mes enfants que mon père l'a été avec moi. Après,
en
je
les
sais
portant
pas.
Déjà
l'avenir
sur les épaules.
Nous le dira. Hein,
en les portant déjà sur les épaules.
En les portant déjà sur les épaules, ouais, bien sûr. Enfin, là, le grand, il commence. C'est
lourd.
J'ai commencé à souffrir un peu, quoi.
C'est lui
il est plus grand
porte,
que moi, donc ouais, c'est ça un peu.
Nouvel album de Raphaël qui s'appelle Notre vie. On va l'évoquer évidemment jusqu'à midi et demi avec lui. Mais d'abord, voici Lisa Del Moitier.
Ah
vous n'auriez pas écrit les paroles comme ça, vous?
Non, non, bonjour Raphaël, ça
bonjour.
Va,
ouais, ça va
non, c'est quand même particulier les artistes. Hein. Dans une autre vie, vous parlez notamment de votre femme actrice.
Oui.
Alors moi, je l'imagine écouter votre album. Hein. Donc, quand tu dis « je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi », tu parles de moi, mon amour? Bien sûr. Et quand tu fais des heures sup d'amour, bah, pareil. Ah ouais? Et dans « je ramène la babysitter chez elle », Raphaël, tu parles de qui là? Non, mais tu sais, je suis un poète, moi. Hein. J'imagine d'autres vies que la mienne. Alors, franchement, c'est compliqué de sortir avec un artiste. Hein. Tu peux pas t'empêcher de le prendre personnellement. Hein. Moi, je pourrais pas, je suis trop parano. Si j'avais été la meuf de Sting, après « Every breath you take », j'aurais pris rendez-vous chez le dentiste. Et apparemment, je veux plus de la gueule, c'est ça là. Imagine la femme de Francky Vincent quand elle est tombée sur la chatte à la voisine. Non, mais c'est l'animal, chérie. Bon, en parlant de poésie, je suis obligée de m'attarder sur vos paroles de chansons, Raphaël. Je vais pas critiquer la mélodie, je n'ai aucun talent musical. J'ai essayé la guitare, mais c'est impossible physiquement parce que je fais de la camptodactylie.
C'est quoi?
En fait, c'est quand tes doigts restent figés. Il reste toujours bloqué. En gros, quand je fais un doigt d'honneur à quelqu'un, je dois être sûre de mon coup. Quoi, parce qu'après, je vais être et c'est pas faute d'avoir envie, mais c'est aussi pour ça que je fais une très mauvaise lesbienne. J'ai pas le temps. À chaque fois que je dois poser une journée en RTT. Quoi. C'est... Alors, je serai en retard au bureau. Hein. Je suis coincée, là. Bon. Entre poètes, donc, je me suis permis de me pencher sur vos textes, Raphaël. J'ai écouté votre album, chose que je dois avouer, je ne fais plus. Je suis pas fière, mais moi, je n'écoute plus que des playlists Spotify. Faut dire, il y en a qui régalent. Hein. Ma préférée, c'est une vraie playlist composée exclusivement de titres à écouter en cas de vasectomie. Je vous jure qu'elle existe. Dedans, t'as Casse-Noisette, évidemment. I Wanna Be Sedated, des Ramones. Et Great Balls of Fire, de Jerry Lewis. Voilà.
Bon,
c'est ta femme qui t'a forcé la main pour faire coupe-coupe. Tu peux ajouter Ne partons pas fâchés. Voilà. Il y a aussi des playlists gratuitement racistes, hein, comme celle pour quand tu visites la Roumanie, avec juste deux titres. What the fuck et où est mon portefeuille? Et celle qui s'appelle Chose à faire quand tu visites la France, avec, je vous le donne en mille, un seul single, partir. Voilà. Que des vraies playlists. Hein. Alors, une petite dernière pour la route quand même, parce que celle-là, je pense que plus de personnes devraient la connaître. C'est la playlist chansons que les gens veulent entendre dans le métro sur ton enceinte Bluetooth. Il n'y a aucun titre. Okay. Voilà, le message est passé. C'est con, mais moi je découvre des musiques que sur les playlists Spotify ou alors sur TikTok, évidemment. D'ailleurs, Raphaël, si vous voulez booster les ventes, je pense qu'il faudrait penser à associer un de vos titres à une chorégraphie. Hein.
Maintenant,
il faut faire ça. Pourquoi pas sur la chanson Le dernier chimpanzé du futur? C'est pas mal ça. Si vous cherchez des idées de pas qui colleraient au titre, regardez Daniel se lever de sa chaise. Vraiment, c'est confondant. Une petite chorégraphie de chimpanzé. Mais en écoutant votre album, et en me penchant sur vos paroles, ça m'a donné envie d'aimer. Quoi. C'est un album qui est plein d'espoir. Ça m'a donné envie d'espérer, ça m'a donné envie d'être heureuse. Hein, vous dites le bonheur, c'est du vol. Et c'est vrai. Ne pas confondre avec le vol, c'est du bonheur. Ça, c'est sur l'album de Jérôme Cahuzac, ça c'est autre chose. Attends, parfois, moi, je suis jalouse des voleurs. Je me dis qu'ils doivent être heureux, quoi. Les pickpockets, surtout, ils ont un hobby. Ils ont de l'adrénaline, ils prennent l'air, ils parlent aux gens. Moi, la seule fois où un Parisien m'a demandé comment j'allais, c'était une diversion pendant que son pote me volait ma carte de banque. Bah, ça m'a quand même fait du bien qu'on s'intéresse à moi, pour une fois. Voilà. Puis vous avez raison, Raphaël. Hein. Le bonheur, il faut aller le shipper partout où on peut le trouver, sur votre album, par exemple, déjà, ou je sais pas, on imagine, hein, c'est fictif, bien sûr, mais en accompagnant une petite babysitter de 19 ans, hein, monsieur Haroche.
Et le dernier chimpanzé du futur.
Je marche dans le jardin abandonné.
Je fais plus de Corée.
Je me souviens encore de leur riz. Du vin de messe qu'ils m'ont donné à boire. De la chemise que les soldats déchirent. La délivrance qui venait avec le soir. Je suis le dernier d'une dynastie de cinglés. Je me souviens d'un incendie, d'un naufrage. Qu'une nuit, il n'y a plus aucune étoile. Sur les montagnes du vent qui tourne à l'orage. D'un camion sans lumière. De ceux qui vivront toujours dans mes ornières.
Dieu s'est retiré du monde.
Dieu s'est retiré du monde il y a déjà longtemps. Il n'a laissé que des lumières allumées, une facture jamais payée. J'aime bien ça.
Ouais.
J'aime bien l'idée comme ça qu'il est arrivé à un moment donné, puis il a dit non, et c'est le retrait, quoi. Et puis il a laissé un certain bordel et personne pour honorer ses dettes.
Vous, sans rentrer dans votre vie privée, dans votre croyance en tout cas, mais vous croyez à des forces supérieures, à un pouvoir surhumain, que ça s'appelle une religion ou que ça s'appelle quelque chose qui nous dépasse en tout cas?
Ouais, je crois. Je crois à des. Enfin, je crois au mystère. Et puis, en tout cas, j'ai envie de croire à des choses. J'ai envie d'étudier des choses. Ça me passionne. Voilà, je suis pas pratiquant du tout, mais par contre. J'aime bien le sacré, j'aime bien le mystère. Puis probablement, je crois à des choses. Bien sûr.
Ça vient de vos parents, ça vient de votre oncle, ça vient parce que.
Bon, non, mon oncle, il est physicien. Je crois qu'il croit en rien du tout. Je crois qu'il croit vraiment à des choses. Je peux pas parler pour lui. D'ailleurs, j'en sais rien. Mais
j'imagine que vous avez dû échanger dans votre enfance et.
Pas vraiment, parce que si j'échange avec lui, au bout de 4 phrases, il me met une formule de maths sur un truc. Il dit ça, tu comprends? Non, mais non, pas du tout. Je comprends pas. Je sais même pas. Voilà, je me suis arrêté en seconde en maths, quoi. Donc c'est un
vous
monde.
Vous n'êtes pas cartésien.
Est-ce que je suis cartésien? Moi, si, quand même, je crois beaucoup en la science, complètement. Après, en tant qu'artiste, je trouve qu'on a une vérité du monde qui est très différente et qui est très puissante. Et je pense qu'on peut résoudre un certain nombre de choses grâce au. Enfin, j'ai l'impression que la voix des artistes, elle est très importante, quoi. Elle est plus importante que celle des intellectuels.
C'est une sensibilité du monde.
Oui, bien sûr, oui. Mais je trouve qu'elle a quelque chose de plus puissante que celle des intellectuels ou que celle de beaucoup de gens, parce qu'on a des intuitions, parce qu'on a de l'ambiguïté, parce que par exemple les romanciers racontent pour moi quelque chose du monde qui est beaucoup plus fort que la plupart des philosophes ou des théoriciens, parce que ils ont l'ambiguïté, plusieurs voix portent en eux. Alors aujourd'hui il y a beaucoup d'écrivains qui vous mettent une espèce de camisole de force idéologique en vous disant voilà, de toute façon c'est. Et moi j'aime pas ça, moi j'aime bien justement l'ambiguïté dans les livres, quoi. Qu'on sache pas très bien ce que l'auteur pense ou quelles sont ses opinions politiques, où il va, ça me laisse beaucoup plus rentrer dans un livre.
C'est ce que vous faites aussi avec les paroles des chansons. Alors oui, il y a des chansons extrêmement précises qui sont presque des scénars de films. Cette fameuse babysitter que vous avez accompagnée, et on ne peut pas imaginer que ce ne soit pas vrai.
Et je ramène la babysitter chez elle. Et je ramène la babysitter chez elle.
De ce père qui se retrouve presque dans un huis clos, dans l'intimité d'une voiture, à observer la moindre courbe dans le cou de la babysitter, qui entend des vannes, des phrases, qui sent un parfum. Visiblement, elle est plutôt allumeuse,
oui.
Dans tous les sens du terme, et pour sa cigarette, et pour demander, parce que dire à un daron qui raccompagne, est-ce que vous avez déjà fait l'amour sur la banquette arrière, il n'y a pas trop d'ambiguïté dans la situation.
C'est une question de hobby.
C'est ça. Et de taille de voiture aussi. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait une banquette arrière. Ouais. Là, on est dans le scénar. Et puis il y a d'autres chansons qui sont beaucoup plus, en effet, légères, poétiques. De comparer le bonheur à un oiseau. C'est-à-dire, il peut apparaître comme il peut disparaître aussi rapidement et insaisissable.
Ouais. Alors je dirais que pour les deux histoires, il y a un peu pour les deux chansons, il y a un point de départ. Le point de départ de la Babysitter, c'est quelque chose de très réel que vivent les chanteurs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a souvent une jeune fille qui s'approche de vous, et qui vient pour vous faire signer quelque chose et qui est très jolie, et on se sent un peu flatté, et puis elle dit, c'est pour mon arrière-grand-mère qui vous aimait beaucoup. Quelque chose comme ça. Donc c'était une petite leçon d'humilité. Et donc j'ai un peu transposé cette histoire avec une.
Il y a aussi la tentation d'une plus jeune femme qui vient dans votre vie et qui vous allume, et vous ne cédez pas à cette tentation.
C'est juste, il ramène une jeune fille, il est touché par la jeunesse, par la beauté, quoi. Il regarde le ciel à travers ses boucles d'oreilles comme ça, et puis elle l'allume, et ensuite elle l'humilie un peu. Voilà, c'est une simple petite
leçon.
Mais
pas volontairement.
Je sais pas, ça, j'en sais rien.
Il paraît que vous avez été chanteur. Non,
ouais.
C'est volontaire, c'est violent.
Ouais, je pense que c'est volontaire.
Les jeunes sont maladroits.
C'est marrant. Mais et l'autre chanson, l'oiseau invisible, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, on a une maison à la campagne, en Bretagne, et j'adore les oiseaux, donc je me suis acheté une application très chère là, pour regarder les oiseaux, vraiment, c'est 20 euros par mois.
C'est quoi ça?
Je sais pas quoi, Picture Bird ou un truc comme ça. Okay. Et vous mettez votre téléphone et vous dit quel genre d'oiseau c'est, quoi.
Okay.
Alors je mets mon téléphone, moi je vois rien déjà, et j'entends des chants d'oiseaux, je mets mon téléphone partout, et manifestement l'appareil ne voit rien non plus, donc il met des trucs totalement improbables, quoi. Un condor, vous avez vu un condor en Bretagne.
Faut être à moins de 100 mètres.
Hein?
Faut être à moins de 100 mètres pour prendre l'oiseau de très près.
Bah, je suis très près, moi je suis vraiment au pied de l'arbre, quoi.
Ah.
Et donc j'ai accepté que les oiseaux, je les entendais, je les voyais pas. Et j'aime bien cette comparaison avec le bonheur. Voilà, c'est un espèce de champ, on peut jamais mettre le doigt dessus, il est toujours en train de s'échapper. Mais par contre, il faut essayer de, justement, ne pas essayer de l'étiqueter, de payer cette putain d'application 20 balles par mois, mais l'entendre chanter.
Il y a une version gratuite, Raphaël, je pense.
Et puis il y a. Ah ouais. Et puis il y a, surtout pour pas avoir le nom de l'oiseau, c'est ça.
Gratuit un mois.
Et puis il y a votre fils, puisqu'on parlait de votre famille, vous avez déjà fait chanter.
Oui.
Le premier, c'est pour pas qu'il y ait de jaloux dans la famille, que tout le monde ait pu chanter.
Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu, pas l'idée de jaloux, mais l'idée que c'est magnifique d'avoir des espèces de souvenirs. Voilà, une chanson avec un enfant, une chanson avec l'autre, j'ai une chanson avec Mélanie, mais c'est vraiment pas du tout un projet de travail, c'est juste comme un espèce de petite mémoire, un souvenir. Okay. Si je pouvais faire chanter mes parents, je le ferais, ils refusent, quoi. Vraiment, ça fait des années que je leur propose.
Ton père a jamais fait les chœurs?
Non, jamais. Il refuse mendicus. Ouais. Tu vas pas nous ridiculiser dans cette affaire.
Ça veut dire que vous avez demandé.
J'ai demandé. Et je continue à demander, d'ailleurs.
Et il y a des moments où, de grâce, j'imagine, pour un artiste, d'avoir son épouse et deux enfants autour d'une guitare, d'un piano, à la maison, sans faire un disque, mais juste pour le plaisir de s'amuser à chanter une chanson ensemble.
Ça arrive, bien sûr. Ça arrive. Moi, je joue tout le temps. Alors, le petit, il joue de la musique aussi, donc il vient. Parfois, on joue au piano ensemble. Et le plus grand, il joue. Il a joué. Il a appris la musique. Il sait lire la musique. Voilà, il peut ouvrir une partition, la lire. En ce moment, ça l'intéresse moins. Quoi. Mm. Il aime bien le basket. Il adore Victor Wembanyama.
Ah bah ouais, je comprends.
Mais on peut faire les deux. On peut faire de la musique et
mettre Wembanyama.
Il faut avoir une très grande guitare.
Ouais. Oui, c'est vrai.
J'en ai toujours les larmes aux yeux. J'ai la nostalgie de nous.
C'est limite dansant, c'est-à-dire
un peu club, un peu marrant, un peu variété italienne, quoi. Il y a un truc un peu. Moi j'aime bien, je trouve ça.
Et alors, est-ce que ce sont les textes qui prédominent? Ce sont eux qui donnent la couleur de la musique? Ou il peut y avoir aussi des boucles musicales que vous avez comme ça sur votre ordinateur, en vous demandant dans avec quelle humeur, avec quel texte cela peut aller? Et puis, est-ce qu'on écrit aussi des chansons comme une sorte d'oxymore, en ayant des musiques extrêmement. Ce que faisait Lerita Mitsuko, une musique extrêmement gaie avec un titre beaucoup plus grave?
Oui, bien sûr. Moi, je dirais que j'ai besoin de texte. Quoi. Je pars de. C'est pas ma plus grande chanson à texte, celle qui passe derrière, mais en général, j'ai besoin de texte. C'est-à-dire, je noircis des cahiers, j'essaye de raconter des petits poèmes, des petits trucs comme ça. Et ensuite, je les mets en musique et j'essaye de trouver une, deux, trois. Souvent, la première forme est la meilleure, c'est celle qui restera. Mmh. Mais parfois, si elle n'est pas satisfaisante ou si elle est. Je sais pas, ça marche pas. Voilà, je retravaille ou je fais appel à des copains qui sont des très bons mélodistes et on essaye d'affiner la chose ou de changer. Voilà. Donc il y a certaines chansons comme la chanson La Mariée qui ont connu, je sais pas, 8 versions différentes avec des mélodies très différentes, des productions. Et c'est très marrant aussi.
Ça fait pas du bien de lâcher le texte un peu parfois?
De lâcher le texte.
Ouais. De se dire, bon, à la fin, c'est peut-être pas mon plus beau texte.
Ah si, si, bien sûr, oui, tout à fait. Non, mais c'est pas de la poésie, c'est pas silence, si. C'est de la poésie. Non.
Évidemment, vous n'allez pas le dire, mais quand même, c'est super bien écrit.
Je suis d'accord, ça fait du bien dans certaines chansons. Ça fait du bien d'être un peu...
De dire un peu...
Un peu naïf, ou un
choses,
peu, ouais, exactement, un peu chanson populaire, voilà. Truc, ça serait bien dans un supermarché, pendant qu'on achète quelque chose, ça me plairait, voilà. Non, mais moi, ça me plaît.
En fait, il rêve de faire de la musique de supermarché et de la musique de pub pour...
La musique, ça doit rentrer dans la vie des gens. C'est vrai que finalement, la manière dont ça vous affecte, c'est très mystérieux et particulier. C'est une chanson très simple qui dit trois phrases, je sais pas, Bebop, Lula, She's My Baby, c'est peut-être ma chanson préférée de tous les temps. Et pourtant, c'est pas non plus...
Oui, un message.
Oui, mais je veux dire, c'est très simple.
Ben, c'est simple.
Il y a un oiseau invisible sur la branche du figuier.
On va caler la chanson d'ailleurs sur la voix de votre vie. Ils chantent super bien.
Il est une
Ils chantent super bien. Ah bah voilà, on l'entend.
Il se freine si on approche. J'ai des miettes dans mes poches. Des miettes du passé. Que je peux lui déposer. Il y a un oiseau invisible.
J'ai pensé à la musique de Soudain Sol aussi, avec cette chanson.
Ah oui.
Dans la nappe, comme ça, un peu, le côté un peu menaçant et profond, et un truc...
C'est-à-dire que j'ai travaillé avec la même personne avec qui je travaille sur le film Soudain Sol, ce qui est un arrangeur de cordes qui s'appelle Maurice Reich, qui fait des cordes magnifiques comme ça.
Et film très... joué Mélanie Thierry et Gilles Lelouch, dont vous avez fait la musique.
Oui, c'est vrai. Mais par exemple, là, cette chanson, voilà, déjà, je trouve ça très beau pour les auditeurs, et moi, si j'écoute ça dans 10 ans, je fonds dans larmes, quoi. Voilà, forcément.
Évidemment, évidemment. Ou dans 150 ans, évidemment. Une tournée est annoncée ?
Pas vraiment. Je fais des festivals cet été.
Ok.
Une douzaine de dates, je crois. Et ensuite, la tournée, ça sera en novembre 2025. Donc, c'est pas tout
Très
de suite.
Très bien. On continue jusqu'à midi et demi d'évoquer cet album et les paroles et les mélodies de Raphaël. Mais d'abord, voici la Marina. Marina Rollman.
On reste sur le sujet musique et aujourd'hui on va parler de contrebasse. Et la contrebasse, est-ce que...
Ouais.
Waouh, ça va ou quoi ? C'est magnifique comme instrument et c'est très pratique à transporter. Non mais bien sûr, je dis ça parce que parfois je vais à des concerts, bon, parfois je vais même à des concerts de jazz. Et je vois des gens très forts en contrebasse qui en font à très très haut niveau. Et je vois que c'est dur, hein. Mais même quand ils sont au max, c'est pas... C'est parfois quand ils font des solos, il y a toute la salle qui est suspendue comme ça. Ils donnent tout et ils ont ce truc de geste comme ça. On dirait qu'ils essaient de faire jouir des géants. Et au final, au son, ça donne quoi ? Toujours la même chose. C'est pas... Même quand ils vont super vite, ils sortent une note par heure en infrabasse, un peu molle. Voilà, c'est pour dire la contrebasse, c'est pas wow. Et pourtant, c'est super dur, d'accord ? C'est des virtuoses, ces gens, certes, mais d'une discipline qui n'est compréhensible que par eux. Comme s'ils jouaient du violon avec des moufles. Exploit, certainement. Agréable, ça se discute. Wow. Bon, maintenant, on arrête de manquer de respect à ces gens, ça suffit. C'est magnifique comme discipline. Je ne sais pas ce qui vous prend de vouloir casser comme ça des fondations du jazz. Et on passe à un vrai sujet. Le temps libre. Cette semaine, je suis laissée à moi-même, puisque la personne avec qui je partage ma vie est en voyage. Un voyage d'agrément, sympathique, beau, aventureux, divertissant, qui peut-être me rend extrêmement jalouse d'être, quant à moi, enchaînée à Paris. Parce que bien sûr, on aime l'autre, on veut le meilleur pour lui. Et à la fois, c'est quand même marrant d'être celui des deux qui s'amuse le plus, globalement. Donc moi, je me dis, waouh, c'est pas parce que je reste à Paris que je vais pas m'éclater, ok ? Je vais sortir à fond les bidons, je vais faire la teuf, je vais voir mille choses, je vais peindre à poil, je vais rencontrer des gens, je vais prendre un doigt, waouh ! Et au final,
j'ai entendu.
Faire la contrebasse. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, je vais boire du kéfir énormément, me concentrer beaucoup sur mon microbiote, me coucher tôt et lire.
Ah là.
Et là, énorme dissonance cognitive. Je me dis, mais ne suis-je donc pas fun ? N'est-ce pas Gandhi qui disait soyez le fun que vous voulez voir dans le monde ? Absolument. Et ben moi, mon fun à moi là depuis 4 jours, il ressemble quand même beaucoup à la vie d'une naturopathe de 73 ans qui vit dans les Cévennes, qui porte des vêtements qu'elle a teint elle-même, qui possède un très très bon four à céramique, qui cale une bonne partie de ses activités sur la lune et qui se touche en pensant à Georgia O'Keeffe.
Oh
alors que pas du tout. Moi, je vais être une salope urbaine, d'accord, en talons avec des copines, rire trop fort sur des terrasses et finalement les graines germées. Ce confort intestinal incroyable. Des étirements le matin, puis un thé vert. Pas du tout. Café, clope et encore l'eyeliner de la veille. Être la première au marché. Choisir ses œufs en se les passant sur le visage comme ça. Y prendre une photo de fleur et l'envoyer par message à une amie en citant un poème et en concluant par je pense à toi. 12 journées. La plénitude, la simplicité, la paix et à la fois le doute, c'est pas du tout ce qu'on m'a dit qui était cool. C'est pas sexy, c'est pas chouette. Il faut profiter, faut être jeune, waouh, l'éclate. Et finalement, le choix s'est opéré tout seul. C'est acté, voilà, je suis vieille. J'envisage aucun salut dans le « Attends, mais on reste encore une heure !» Non, parce qu'il y a des gens cools qui doivent arriver après. Et puis sinon, on peut aller à une autre teuf après, un truc chambé. Malgré moi, je suis en train de devenir une joueuse de contrebasse. Il n'y a que les initiés qui comprennent mon plaisir. C'est vraiment pas le centre du cool. Moi-même, parfois, je doute et à la fois, ben, qu'est-ce que je kiffe.
Merci. Vous êtes bien dans la bande originale, vous serez encore mieux après Clara Isée et l'étoile.
Tu m'as promis qu'il y avait une étoile pour chacun dans le ciel et que si tu l'appelles elle t'accompagnera. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'enfuir au vide, tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles. Tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles. Si la mer te ravit, tu régneras sous les eaux cristales. Si un jour perdu je t'appelle, tu me protégeras. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'enfuir au vide, tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles. Tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'enfuir. Le son dans mes veines. Et si la tristesse t'entraîne et que tu quittes la reine, je serai diluvienne. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'enfuir en vide, tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles.
C'était l'étoile de Clara Isée dans la bande originale, celle de Raphaël sur Inter.
Des fois, on se dit que c'est finalement rien du tout, la vie.
Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi.
L'espoir, premier titre de cet album, premier single sorti en tout cas de cet album. Et l'espoir. Et suivi de leur sup, les heures sup, pardon. On va évoquer la notion d'espoir, ce mot utilisé qui peut être un moteur dans la vie aussi, qui peut être aussi par moments une cause de déprime en se disant est-ce qu'il nous reste encore un tout petit peu d'espoir, avec Pierre Soubial qui est agrégé de philosophie, qui sera avec nous tout à l'heure pour parler de cette notion d'espoir en termes de philosophie et peut-être de combat. Mais d'abord la musique dans la vie de Raphaël, on va commencer en 75. 75, c'est votre année de naissance, donc j'imagine que c'était pas le premier disque que vous avez écouté, non. Richard Harris, My Boy. Pourquoi avoir choisi ce titre? C'était un titre que votre papa écoutait?
Ouais, exactement. Moi, j'aime beaucoup cette chanson très mélodramatique, comme ça, avec des cordes magnifiques.
Tu es mon garçon.
Ouais, c'est beau, c'est vrai, c'est magnifique, j'adore. Et ce souvenir d'enfance vraiment très lointain, quoi. J'avais 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça.
Et dans la famille, du côté paternel, il y a une injonction à réussir par les études, par le travail, par l'école, quoi.
On valorise vraiment l'école. Moi aussi, hein. Ouais. Je trouve ça vraiment important.
C'était le cas aussi du côté de votre maman? La même injonction.
Un peu moins.
Ça fait une moyenne. Ça permet de s'épanouir.
Ils en avaient un peu rien à foutre. J'ai l'impression.
Ça permet de s'épanouir plus simplement, finalement,
peut-être,
entre les deux.
Peut-être. Si on avait le bac, c'était oh putain, pas mal.
Une famille que vous qualifieriez de littéraire, parce que votre papa a écrit un roman.
Mon père a écrit 2 romans, mais récemment, quoi. Il a sorti un livre il y a 2 ans, 3 ans, très beau.
Un petit loukoum, c'est ça? Le petit loukoum.
Oui, exactement.
Ça veut dire qu'à la maison,
je dirais que c'est plutôt des scientifiques, moi, dans la famille de mon père, quoi. C'est vraiment. Mais après, ils ont tous fait des grandes études, quoi. Ils avaient fait, mon oncle a fait Normal Sup. Les autres, ils ont tous fait Sciences Po ou médecine, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est des intellectuels.
Votre oncle a reçu
prix Nobel de physique, quoi.
Prix Nobel de physique il y a quelques années.
Il y a 10 ans.
Dans ce genre de situation-là, c'est toute la famille qui est honorée. C'est-à-dire que d'un coup,
bien sûr, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est toute une vie de travail. C'est
une reconnaissance mondiale.
Oui, et puis déjà pour tout le monde, c'est extraordinaire. Et puis après, c'est donner de la valeur au travail. Ils habitaient au Maroc, ils habitaient à Casablanca, ils sont arrivés en France, ils n'avaient pas de papier, ils avaient 9 ans ou 10 ans. Et ma grand-mère, qui était ukrainienne, disait toujours, mon fils, il aura le prix Nobel.
Ouais, c'est génial.
Et puis à un moment donné, tous les ans.
C'est la mère de Romain Gary, en fait.
Ouais, c'est ça. Exactement. Tous les ans, il n'avait pas le prix Nobel parce que ça met du temps. Ouais. Et un jour, ma mère dit à mon père, t'as qu'à dire vraiment à tes copains qu'il a le prix Nobel, puis comme ça, ce sera faux. Et un jour, il a eu effectivement le prix Nobel, et là, sa mère était morte, donc c'était
dommage.
Parce que souvent, on l'a assez âgé, ce prix, on le donne souvent à des gens un peu croulants, quoi. Mais
vous avez beaucoup de respect pour ton nom.
Surtout en littérature, je suis un peu fâché à la littérature qu'il ne le donne pas à certaines personnes, là, les Joyce Carol Oates, ou les Philip Roth, ou les Kundera, là, je trouve qu'ils sont un peu... Bon, bref, mais c'est un autre... De toute façon, c'est très... Mais
bon, donc, il y a eu Annie Arnaud.
Oui, mais de toute façon, c'est très différent. Je voulais juste dire que c'était extraordinaire pour cette famille. Voilà. Ouais. Mais pour tout le monde, voilà.
C'est joli.
Pour moi aussi, c'est extraordinaire.
C'est joli de le raconter, de résumer en une phrase en disant « Né à Casablanca, arrivé sans papier ».
Mon père m'a quand même dit, quand il a eu le prix Nobel, il me l'a annoncé, c'est lui qui m'a appelé, il m'a dit « Tu sais, je voulais te dire un truc. J'ai passé mon enfance dans le lit d'un prix Nobel et c'est lui qui m'a appris à lire. » Voilà, c'était très mignon, très adorable, parce qu'ils avaient 2 ans d'écart. Mon père est 2 ans plus jeune, donc c'est très mignon, et c'est vrai qu'ils ont appris à lire ensemble, quoi.
En 93, vous écoutiez...
Je savais que ça vous ferait plaisir.
J'adore. John Frusciante, ce que vous aimez là-dedans, c'est aussi bien le travail, la technologie qu'il y a autour d'un son que la réalité de ce son, c'est-à-dire cette souffrance primale.
C'est tout, moi j'adore John Frusciante. John Frusciante, c'est le guitariste des Red Hot Chili Peppers, donc magnifique guitariste qui faisait que des tubes mondiaux. Et à un moment donné, il plaque le groupe. Ça se passe l'année où il plaque le groupe. Ils ont une espèce d'émission de télé au Japon ou un concert, il me fait chier, il se barre et il disparaît.
Oui. Prenez 2-3 produits aussi.
Je pense qu'il prenait 2-3 produits et il se met à faire des disques un peu expérimentaux. Voilà, donc en gros, il a une pédale de delay qui s'appelle une Memory Man et en gros, il tripe sur sa pédale de delay. Quoi. Il reste coincé pendant 2 heures et c'est à peu près ça que j'écoutais ado. Donc c'est vrai que c'est la musique que j'aimais. Ça continue très longtemps comme ça. C'est absolument magnifique.
On est en 93.
C'est absolument magnifique. Ce qui explique mon sens des tubes populaires. Voilà. Sens très aiguisé.
Ouais, ça se voit. On est en 93 et on vous retrouve pendant ce temps-là en fac de droit. Parce que le droit mène à tout.
C'est ça, exactement. Fac de droit.
Qu'est-ce que vous y faites en fac de droit?
J'étudie, j'apprends un peu. J'étais pas passionné par le droit. Voilà, j'avais envie de faire de la musique. Puis j'étais bon élève au lycée et tout ça. Et après, j'ai eu envie un peu de glander. Quoi. Donc la fac de droit à l'époque. Aujourd'hui, je crois que c'est très difficile la fac de droit. Mais à l'époque, c'était plus un truc de où on pouvait un peu dilettante, quoi. Donc je passais mes, j'avais une très bonne mémoire à l'époque, j'étais hyper amnésique, donc je pouvais passer mes examens comme ça en bachotant pendant deux semaines.
Vous ne l'êtes plus ?
Non, plus du tout. Là, j'ai une grande confusion là maintenant. Vraiment, j'ai besoin de texte, des paroles de mes chansons. Quoi.
Mais... il vit avec des prompteurs en fait. même les pigeons, il les reconnaît pas. Il a une application pour voir si c'est un pigeon.
Il les voit pas, c'est pareil.
J'ai une blague assez marrante que m'avait raconté Jean-Louis Trintignant. C'est deux vieux qui ont Alzheimer, et puis il y en a un qui dit à l'autre mais moi j'ai un nouveau traitement. Il dit ah oui, c'est bien, c'est super, et comment, c'est quoi ton traitement? Il dit bah attends, il faut que je demande c'est quoi déjà tu sais la fleur là, il sent très bon avec des épines, et alors l'autre il réfléchit un peu, dit une rose. Il dit ah oui, rose mon amour, dis-moi comment s'appelle le médecin qui... C'est une blague de Trintignant, quoi. Totalement désespérante, mais
c'est
magnifique.
Chic, c'est chic. Pierre Soubial nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé de philosophie, auteur de 100 questions pour réfléchir et philosopher. Quelle est votre définition de l'espoir? C'est vague et compliqué comme question, mais
en effet,
en avez-vous alors... une?
Je pense qu'on peut partir de l'idée d'après laquelle l'espoir, c'est un sentiment qui nous fait entrevoir comme probable la réalisation de ce qu'on désire. Autrement dit, l'espoir, c'est une modalité de l'attente qui désigne un certain rapport positif au temps. Espérer, c'est avoir confiance en l'avenir, mais il ne suffit pas de dire qu'on a confiance en l'avenir pour cerner la spécificité de l'espoir, au sens où je pense qu'on peut faire une distinction entre l'espoir et l'optimisme un peu naïf. Je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Au sens où l'optimisme, c'est d'abord plutôt un état d'esprit qui consiste à voir toujours le verre à moitié plein, quitte parfois à se voiler la face d'ailleurs, et à ne pas regarder la réalité telle qu'elle est, en pensant que tout ira bien. Là où l'espoir repose quand même sur une certaine forme de lucidité. C'est-à-dire que l'espoir accepte de douter, là où l'optimiste ne va pas forcément douter. Donc il y a un rapport quand même entre l'espoir et aussi le doute. On n'espère pas s'en douter.
Mais est-ce que l'espoir, c'est aussi avoir... mettre la main sur sa propre destinée en disant j'écris mon avenir, je décide d'atteindre ce but et je me donne tout pour l'atteindre. Ou c'est pas, on n'est pas dans la fatalité, on n'est pas dans l'attente passive.
Bah précisément, là je crois que là vraiment il y a vraiment une différence entre pessimisme, optimisme et espoir. En effet, l'espoir repose sur la conscience de l'incertitude de l'avenir. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'on ne peut pas prévoir rationnellement tout ce qui va arriver. Donc l'espoir repose de ce point de vue-là plus sur la croyance que sur le savoir. Or, croire, qu'est-ce que c'est? C'est adhérer à une idée sans avoir la preuve de cette idée. Eh bien, espérer, c'est parier sur l'avenir sans être certain que ça va se réaliser. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des raisons d'espérer, mais que les raisons d'espérer ne sont jamais la cause de l'espoir, ce sont les conditions de l'espoir, mais les conditions de l'espoir ne sont pas la cause. L'espoir, c'est toujours un engagement, un choix, le choix de prendre en main son avenir, voilà, sans avoir cette certitude, encore une fois. Mais c'est toujours un engagement.
Oui, quand on dit l'espoir fait vivre, c'est, l'expression veut dire qu'on a besoin d'un but, d'une motivation pour croire en un monde meilleur.
Alors, en effet, quand on dit l'espoir fait vivre, c'est une formule un peu ambivalente qui peut parfois être ironique, mais de toute évidence, il est difficile d'investir le présent véritablement sans espérer quelque chose hein, de l'avenir. Mais il ne faudrait pas voir l'espoir comme quelque chose qui permet de supporter le présent, comme une espèce de narcotique, etc. Je pense que l'espoir est plutôt quelque chose qui permet d'affronter le présent dans toute sa difficulté.
La frontière, pardon, entre supporter et affronter le présent... Et...
C'est justement, je pense que supporter, c'est un peu comme une morphine qui nous permet de ne pas trop souffrir, etc. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Grecs, eux, pensaient vraiment que l'espoir était quelque chose qu'il fallait fuir parce que c'était une manière de se détourner du présent.
Ah oui.
Donc vraiment, les Grecs condamnent, hein, au nom de la sagesse, le recours à l'espoir. Mais je pense qu'ils confondent là aussi espoir et optimisme dans la mesure où l'espoir ne permet non pas de supporter le présent, mais vraiment de l'affronter. Il y a par exemple quelque chose, un événement grave, une maladie, et de continuer quand même à y croire. Et
Raphaël, quand vous utilisez cet espoir pour ouvrir l'album, vous l'envisagez comme une manière de disposer de son propre avenir, une manière de se protéger d'un présent qui n'est pas toujours agréable.
Oui, puis de se donner de la valeur, je sais pas, je trouve, c'est comme une espèce de voix intérieure, comme ça, qui... Des fois, moi, quand il y a quelque chose qui vacille un peu, je me parle à moi-même, je me dis tu, machin, comme ça, comme la voix d'un enfant, quoi, une espèce de voix de petit garçon que j'ai, une manière de se rassurer, de se donner de la valeur aussi. Et puis après, moi, je suis très fan de tennis, donc je regarde les mental coaching des joueurs de tennis, genre Djokovic, par exemple.
Ah ouais.
La visualisation mentale, les espèces d'objectifs qui se fixent, qui ne marche que pour lui, parce que si moi je me dis je vais gagner Wimbledon, je me le dis, hein, je peux vraiment dire ça sur mon vélo toujours, je vais gagner Wimbledon, je serai le plus vieux français à gagner Wimbledon, le seul français à gagner Wimbledon.
Oui, déjà.
Mais, et en plus, le plus vieux, machin, mais ça ne marchera pas. Il faut certaines conditions pour que cette visualisation positive, mais ça m'impressionne beaucoup, quoi. C'est, ça me fascine.
Quand on n'a plus d'espoir, le mot employé est encore extrêmement violent. Désespéré, c'est-à-dire que là, on tombe dans l'inverse extrême.
Oui, en effet. Alors là, le désespoir, pour le coup, vivre avec le désespoir, c'est compliqué. Là, on voit qu'en effet, l'espoir peut être un narcotique. Mais je pense que il faut pas oublier qu'il y a pas plus finalement de certitude quant à l'avenir dans le cas de l'espoir que du désespoir. Finalement, l'espoir qu'on doit avoir, c'est l'espoir toujours en l'homme qui est non seulement acteur de l'avenir, mais aussi son auteur de l'histoire qu'il est en train de faire. Et donc, de ce point de vue-là, le désespéré doit garder ça en tête. C'est-à-dire qu'il y a quand même une incertitude sur l'avenir, une ouverture qui doit être non pas un motif d'inquiétude, mais plutôt un motif d'action.
Quand on étudie, quand on est agrégé de philosophie, on n'a quel espoir ?
D'abord, celui de voir une jeunesse face à laquelle on nous contacte tous les jours, à laquelle on enseigne, et qui, contrairement à ce qu'on pourrait dire, ne manque pas d'espoir. C'est-à-dire que j'ai face à moi des jeunes qui ont vraiment envie de s'investir plus tard dans des jobs en rapport avec certaines valeurs auxquelles ils croient vraiment, ils pensent vraiment que les choses peuvent changer, et ça, c'est vraiment un motif d'espoir très important.
Parfait. 100 questions pour réfléchir et philosopher chez First Édition signée Pierre Soubial. Merci d'être venu à ce micro. Voici Leïla.
Oui.
C'est toi qui te charges de présenter l'invité d'Alexandre Cominec aujourd'hui.
Oui, parce qu'on le sait depuis quelques jours, l'exposition universelle de 2030 aura lieu à Riyad. Après Dubaï en 2020, la capitale de l'Arabie Saoudite a été largement préférée à ses adversaires. Victoire écrasante pour les Saoudiens, même si une quinzaine d'ONG de défense des droits humains avaient appelé à ne pas voter pour Riyad du fait de son épouvantable bilan sur le plan des droits humains. Pour parler de cette victoire, nous recevons le cheikh Abdelaziz Ben Abdelaziz Al Saoud et son interprète à ses côtés.
Assalamu alaikum.
Bonjour, je vous achète tous.
Cheikh, comment fait-on pour gagner une compétition avec autant d'avance sur ses adversaires?
The woman is going to talk to us.
Oui, malheureusement.
Ok, astaghfirullah. Listen, it's simple. To win, you need the money, ok? No money, no honey. Take money,
Le chèque dit que c'est avant tout une histoire de diplomatie.
With money, we take you everywhere we want. We put you where we want to do what we want.
On est pour le libre-échange, le partage, la mixité.
Like Playmobiles.
On est pour le respect des droits de l'homme.
Playmobil, on a les kahbaz.
Et l'égalité homme-femme, bien sûr.
And that's why we decided to pay everything. And we're gonna put our rules to rule the world and make it a better place for you and for me and the entire human race. I love Michael Jackson.
Nous allons tout racheter, le monde sera notre centre commercial. Ah, j'adore Jean-Luc Léa.
Ça vous a énervé que Dubaï ait organisé l'Expo Universelle avant vous?
No, it makes me laugh. As the COP28.
Au contraire, ça me fait rire, tout comme la COP28.
They made a congress about ecology in an air-conditioned desert.
Ils ont fait une conférence sur l'écologie dans un désert climatisé.
It's like talking about democracy in North Korea.
C'est comme parler de démocratie en Corée du Nord.
It's like giving the Nobel Prize of Peace to Vladimir Putin.
C'est comme... je traduirai pas.
It's like a conference against pedophilia in Thailand.
C'est comme parler des dernières vacances de Morandini.
But we are harder, better, faster, stronger. Ah, I love Daft Punk.
Et on est plus dur, meilleur, plus fort. J'adore Benalla, François Hollande et tous les gens casqués.
Should I remind you? Should, listen to me, should I remind you that we are going to organize the Olympic Winter Games in Saudi Arabia?
Je vous rappelle que nous allons organiser les Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite.
It's 40 degrees, but we're gonna have some bobsleigh, Allah!
40 degrés, mais on va faire du bobsleigh.
There's gonna be snowboard in a country that where it's not snowing, Allah!
On va faire du snowboard dans un pays où il ne neige pas.
And I can't wait to see some gay ice skaters with gay clothes on gay ice.
J'ai hâte de découvrir les patineurs artistiques.
Zaborom comme les PD.
Est-ce que vous trouvez normal toutes ces aberrations écologiques?
But what's normal today?
Qu'est-ce qui est normal aujourd'hui?
Look, China, it's the most polluted country in the world.
La Chine est le pays le plus pollué du monde.
But China is the biggest solar panel manufacturer.
Mais la Chine est le plus grand fabricant de panneaux solaires.
Isn't it crazy? Huh? They make solar panels without seeing the sun because of the pollution.
C'est comme si la Bretagne produisait des parasols.
Au-delà des sports d'hiver, c'est toutes les stars du foot qui viennent en Arabie Saoudite.
Bah, hey, it's all about the money. It's all about the dum-dum-dum-dum-dum.
Les joueurs viennent surtout pour une qualité de vie exceptionnelle.
For you, Ronaldo, Benzema, Neymar are star du foot. For us, it's baby foot.
Une pièce dans la fente, tu ramènes qui tu veux.
Oh, and this Brazilian fucker of Neymar got injured.
La star brésilienne Neymar est actuellement blessée.
So I'm using him as a table in my living room.
Il me sert donc de table dans mon salon.
Et vous avez l'intention d'acheter d'autres symboles occidentaux?
Of course, that's why I'm here. I'm going to buy France Inter.
Évidemment, et je suis là pour acheter l'islamo-gauchisme.
Ah, Leila Kadour Boudadi, I'll tell you, I'm going to change everything here.
Ah, ma princesse du désert, tu vas changer ici.
I'm going to put more elevators, more escalators, with champagne fountain in the elevators. Ah, you like it, eh, bint al-haram.
Il y aura du champagne dans l'ascenseur. Arrête de baver, fille du péché.
My greatest acquisition will be Nagui.
Oh. Mon meilleur achat sera Nagui. Vous voulez faire n'oubliez pas les paroles en Arabie Saoudite?
Non, non, non. He will be my favorite belly dancer.
Non, vous serez ma danseuse du ventre préférée.
I will put you on the table in my living room.
Vous avez le sens de l'équilibre, Nagui, parce qu'apparemment, vous allez danser sur Neymar.
Assalamu alaikum.
Merci. Tanguy Passureau, de quoi, bonjour, de quoi vas-tu parler aujourd'hui?
Je vais vous parler d'Élise Lucet, elle est pas chier celle-là. Des dizaines de pubs pour les crypto-monnaies, elle fait. Vous avez vu, les stars de France 2 n'ont décidément aucune éthique.
Oh non.
France Inter en podcast, ce sont toutes vos émissions préférées à la carte.
Affaires sensibles,
même le vice-président américain Truman, qui plus tard aura l'écrasante responsabilité de décider l'envoi de la bombe atomique sur le Japon, n'est au courant de rien.
Tout France Inter, où vous voulez, quand vous voulez, sur l'application Radio France et sur franceinter.fr.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable.
Dispositif médical.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite. Oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer. Oui, ça arrive.
Mon seul